C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
D'abord, ce matin, parlons de ce tremblement de terre qui a secoué Taïwan, le pire tremblement de terre, le plus violent en 25 ans. Il y a encore, semble-t-il, des douzaines de personnes qui sont coincées à l'intérieur des débris de structures. Il y a plusieurs édifices qui ont été secoués. Et on parle jusqu'à maintenant de 7 personnes, ça s'est confirmé, décédées, et des centaines, probablement 700 personnes qui ont été blessées. La secousse, magnitude de 7,4. Et tout ça se passe le long de la côte de Taïwan. Et si vous avez peut-être déjà vu quelques images, on voit par exemple à l'intérieur des immeubles, ça se met à trembler. Et il y a des pièces qui se détachent, mais on voit aussi des photos d'immeubles qui ont été tellement secoués que ça ressemble un peu à la tour de Pise, là, qui bascule ou qui ont basculé en raison de ce tremblement de terre. Et puis, on sait que Israël a confirmé que l'attaque lancée contre des travailleurs humanitaires de l'organisme World Central Kitchen est la responsabilité totale et entière d'Israël. Erreur, a dit le premier ministre Netanyahou. Depuis hier, on a entendu les condamnations des Américains, des Canadiens, bref, de la communauté internationale en disant c'est non seulement absolument inexplicable ce qui s'est produit, mais ça envoie un message non seulement à cette organisation, mais à l'ensemble des travailleurs qui tentent d'aider les gens de Gaza qui sont, on le sait, coincés sans nourriture. Les infrastructures ont été pour la plupart touchées par les opérations menées par Israël. Et là, je voyais encore les photos de ces véhicules clairement identifiés de ce groupe, la World Central Kitchen. Comment se fait-il qu'on a fait une erreur? Quand vous voyez le logo qui est sur le toit du véhicule, c'était deux véhicules qui circulaient et il y a un trou immense causé par un tir israélien. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a rien qui peut servir d'argument pour justifier. Et ça a été assumé, mais assumé beaucoup trop tard. Et on le voit, c'est un conflit qui s'enlise. Ça fait 6 mois que ça dure. Et malgré les opérations militaires répétées menées par Israël, tout ce que ça crée comme situation, évidemment, c'est une catastrophe, c'est une horreur sur le plan humanitaire. Et en plus, l'objectif est loin d'être atteint. Et on le disait hier avec Jean-François Lépine, on voit de plus en plus de manifestations à Jérusalem, par exemple, et dans d'autres villes en Israël, contre le gouvernement du premier ministre Netanyahou. Ici, maintenant, je veux vous parler d'agriculture. C'est un sujet qui est important. Et si on a vu des producteurs en France manifester assez violemment, dans certains cas, en disant que ça n'avait plus de bon sens, les coûts de production explosent, la vente des produits des fermes en France difficile sur le marché, il y a une compétition internationale, ben, nos producteurs ici vivent un contexte qui ressemble pas mal à ce que les agriculteurs vivent un peu partout dans le monde. Évidemment, augmentation des coûts de production, les taux d'intérêt. Et il faut se battre avec les changements climatiques pour être capable de sortir une production et faire un peu d'argent. Et ça demeure très, très difficile. Il faut mettre de côté, je dirais, les mythes concernant les riches propriétaires fermiers, puis qu'il y a dans le fond, parce qu'on paye cher à l'épicerie, on a comme réflexe des fois de dire ben pourquoi ça coûte si cher, puis ils font bien de l'argent sur les fermes. C'est pas du tout cette réalité, qu'on soit un petit producteur ou un producteur plus gros. Ce matin, je vais parler avec Laurence Levasseur, qui est copropriétaire de la ferme Selby, c'est à Dunham, et elle élève des porcs pour, je dirais du début à la fin, là, pour revendre dans les boucheries, dans les restaurants. C'est une jeune femme, 33 ans. Elle est copropriétaire avec son conjoint qui s'appelle Nicolas de cette ferme. Ils ont 2 enfants et ils font de la production de porc, je le disais, du début à la fin, mais en respectant, appelons ça, une éthique de travail, puis très, très écolo aussi, parce que c'est comme ça qu'elle veut produire. De pouvoir dire, ben cette viande-là a été produite ici, du début jusqu'à la fin. et vous retrouvez ces produits dans des boucheries à Montréal, dans des restaurants. Et elle va nous raconter un peu son parcours, parce que pour des jeunes comme ça qui se lancent dans la production agricole, c'est pas facile, c'est même très difficile. Et il y a, par exemple, la hausse des taux d'intérêt, la hausse des prix, à peu près partout. Elle donne des exemples dans un message qu'elle a fait sur Instagram. La litière, les copeaux qu'elle doit acheter, c'est une augmentation importante. Son sac de RIP de bois m'a coûté 9 $ alors que ça coûtait normalement de 4 à 5 $ on peut ajouter évidemment tout ce qui concerne la nourriture. Bref, est-ce que Québec, qui est de plus en plus sollicité par le monde agricole, doit venir en aide financièrement, entre autres pour ce qui est des taux d'intérêt qui sont élevés? C'est important qu'on discute de ça parce que, comme on dit, ce sont les gens qui nourrissent le Québec et même l'étranger. Puis il faut être capable de regarder, nous qui sommes en ville, là, ce qui se passe dans les régions puis dans les territoires du Québec. Aussi, je vais vous parler plus tard ce matin de la consigne qui est prévue pour mars 2025, des nouveaux contenants qui vont s'ajouter, c'est-à-dire, entre autres, les bouteilles de vin et également des contenants en carton multicouche. Il semble que c'est bien compliqué parce que Consigne Action a le mandat de s'installer et de créer 200 endroits à travers le Québec pour qu'on puisse... Donc, aller porter ces contenants qui seront à nouveau, et en fait, ce seront des nouveaux produits, c'est l'élargissement de la consigne. Et là, il y a des délais, nous dit-on, trop serrés. Il y a des questions de financement, il y a des questions de trouver l'espace, des lieux pour faire ça. Et tout indique, on verra tantôt, là, mais qu'on ne sera pas capable d'atteindre l'objectif. Encore une fois, une démonstration que ça semble encore très compliqué, pour qu'il y ait de trouver des endroits, pour que ça soit sur le plan stratégique bien pensé, d'aller chercher les permis. On racontait, c'est pas si c'est vrai, qu'à un moment donné, on vous donne le permis pour occuper le local, mais on vous donne pas le permis pour faire les travaux, pour l'aménager. Ça fait partie des aberrations qu'on voit souvent quand il est question de construction comme ça, et également de mettre en œuvre un projet qui est important, parce que ce sont des quantités impressionnantes de bouteilles puis de contenants, de bouteilles de plastique puis de carton qui vont s'ajouter à l'industrie de la consigne. Le gouvernement fédéral qui poursuit son striptease budgétaire en présentant plutôt son plan pour le logement. 6 milliards pour l'ensemble des provinces et les municipalités pour financer les infrastructures qui sont reliées à la construction de logements. Alors, c'est 1 milliard de dollars à la disposition des villes et 5 milliards pour des ententes avec les provinces et les territoires. Bien sûr, il y a des conditions. Et ce que le fédéral dit, c'est que parmi les conditions, il faut donc construire les logements, mettons que ça va de soi, prendre des mesures pour que ces logements soient accessibles, abordables, il faut que ça soit respectueux du climat, et aussi conforme à la charte des droits des acheteurs et de la charte des droits des locataires. On sait que M. Trudeau aime beaucoup les chartes. Alors, il y a plein de conditions rattachées à ça. Vous comprendrez que les provinces ont dit non. Mêlez-vous de vos affaires. C'est un programme où le Québec peut dire on prend l'argent, mais sans conditions. Parce que ça relève du fédéral. Et encore une fois, qu'est-ce que ça montre quand on parle de la crise du logement? Cette espèce d'incapacité, je dirais, de se réunir, de créer un sommet, un vrai, là, pas une patente arrangée qui aboutit à rien, là, mais un véritable sommet sur la crise du logement. Je parlais avec des gens hier et on ne réalise pas à quel point c'est majeur. Et c'est majeur pour des décennies à venir. Parce que l'apport de la population, M. Trudeau a reconnu hier, on est allé un peu fort en immigration, notamment les travailleurs temporaires, il va falloir réduire le nombre de nouveaux venus au Canada dans les prochaines années. Mais là, vous avez chacun des acteurs qui joue en solo sa pièce. Le fédéral, le gouvernement, est en chute libre dans les sondages. Et là, il lance toutes sortes de programmes, nourrir les enfants à l'école, les infrastructures en matière de logement, présentait sa charte. OK, voilà des programmes. Québec dit, on n'embarque pas dans vos affaires, c'est de compétence ici. Et les villes qui s'agitent en disant, ben nous, on n'a pas les moyens de construire parce qu'on a une façon d'aller chercher de l'argent avec les taxes qui est maintenant désuète. Mais là, chacun y va. Mme Plante est allée d'un registre des locataires qui n'est pas contraignant. Je veux dire, face à une crise majeure, je trouve que les politiciens ont opté pour faire du spectacle sur cette question-là plutôt que d'annoncer des mesures importantes. Tu sais, on me raconte que dans la loi qui a été votée par Québec, ce qui est vrai, là, on permet aux villes d'accélérer la construction et de sauter des étapes qui étaient requises pour faire plus vite, pour être plus efficace. Bien, ça a l'air que ça dépend du projet. Dans certaines villes, on va dire, c'est un 4 logements que vous voulez construire? Non, le processus continue. On saute des étapes quand c'est pour des projets plus importants. On n'est pas équipé pour lever le nez sur beaucoup de projets de construction. Alors ça aussi, on va en reparler ce matin. Tout le dossier des tarifs d'électricité, M. Fitzgibbon a dit hier que c'est sûr qu'on accepte des projets, que Québec a besoin de produire plus. Et est-ce que les tarifs d'électricité vont augmenter? La réponse, c'est oui. J'espère qu'il n'y a personne qui est surpris de ça. On comprend que les Québécois veulent et souhaitent opter pour une consommation modérée, intelligente de l'électricité. Mais c'est pas vrai qu'il va y avoir un gel. Là, la question, c'est quel est le pourcentage d'augmentation? Je pense pas qu'il y ait un gouvernement, la veille d'une élection, qui va y aller plus haut que le 2-3% qu'on voit actuellement. Également, ce matin, je veux vous parler des moyens de pression de la Sûreté du Québec hier. Parce que on s'est rendu compte que cette opération visibilité n'a pas eu beaucoup d'impact sur la circulation, sauf hier à Montréal, sur Descaries. Et pourtant, j'avais posé la question à M. Pinchot, qui est le président de l'Association des policiers policières, donc le syndicat des policiers de la SQ. Il m'a dit, écoutez, là, êtes-vous bien certain que vos moyens, casquette rouge, là, puis opération visibilité, ça n'aura pas d'impact sur la circulation?
Non, absolument pas. Et la consigne est bien claire qu'on ne veut pas du tout créer de bouchons ou perturber la circulation. Les policiers policiers sont invités de le faire que à leur pause ou à l'heure de repas. Et ça se fait là tout à fait de manière sobre.
Bon, on sait que ça n'a pas été le cas hier sur Descaries. C'était pas majeur, c'était un ralentissement. Mais ça envoie un drôle de signal. Je suis très conscient là, que les moyens de pression des policiers sont limités. Ils peuvent pas faire grand-chose. Il y a des trucs administratifs, bon. Mais dans l'opinion publique, ça ne passe pas. Parce que de voir des policiers qui ralentissent pour se faire entendre la circulation, déjà que c'est compliqué à Montréal, comprendrez que pas bien agréable, puis que ça ne va pas susciter une grande sympathie. Vous connaissez l'expression? Si c'est la police qui bloque, on appelle qui pour que la police s'enlève? Parce que si c'est un autre groupe de pression, des infirmières, des travailleurs de la construction, des producteurs agricoles qui bloquent, c'est la police qui va les tasser, puis qui va faire en sorte que la circulation revienne le plus vite possible à la normale. Mais dans ce cas-là, peut-être une dérape, là. Ils l'ont échappé. Mais vous avez entendu M. Pinchot hier, c'était non, il n'est pas question de bloquer quoi que ce soit. Si je demeure dans l'univers policier, le Journal de Montréal nous apprend ce matin que le service de police de Laval a dépensé quand même des sommes importantes, là, 1,5 million pour acheter des véhicules pour le service de police. Alors, ils ont acheté 13 Ford Mustang Mach-E, 48 bornes électriques pour le stationnement puis faire des travaux. Et il y a même un des véhicules qui a coûté près de 94 000 $, c'est-à-dire la version GT. Et c'est un véhicule hyper performant, hyper puissant. Et ça arrive alors que la ville dit « on n'a pas d'argent, nous les villes, on n'a pas une scène, qu'est-ce que vous voulez? » C'est parfait, mais ça sert à quoi? Qui l'utilise? Et là, manque de transparence à Laval, pas capable de voir les véhicules en question, pas capable de savoir qui s'en sert, sauf qu'on nous a expliqué que le directeur, M. Brochet, avait conduit la version haut de gamme pendant 4 mois. Là, tu dis, le directeur répond pas aux appels d'urgence. pourquoi il y a ce véhicule-là? Je comprends qu'il y a un véhicule de fonction, là, mais pourquoi? Ça serait bien que la ville de Laval nous dise exactement pourquoi on a acheté ça, comment le choix s'est fait, ça a coûté combien pour vrai, est-ce qu'on les utilise? C'est, ce sont des questions légitimes, c'est l'argent public. Là. Et là, on nage en plein mystère, mais pour l'instant, il semble que c'est bien compliqué de savoir ça a coûté combien, pourquoi exactement, puis qui se sert des véhicules. Il y a toujours cette histoire à Longueuil, c'est particulier, c'est un policier, un sergent détective qui aurait eu des relations sexuelles sur des heures de travail avec une plaignante d'un dossier d'agression sexuelle. Donc, c'est Le Devoir qui rapporte ça ce matin. C'est une poursuite qui vise le policier, 150 000 $, et on le soupçonne d'avoir enfreint son code de déontologie. Comprendrez, un enquêteur de police qui sort avec une victime, c'est pas l'idée du siècle, encore une fois. Des événements qui se sont passés entre décembre 2019 et août 2020. Il semble que le policier n'est plus à l'emploi du service de police de Longueuil. Les raisons de son départ demeurent inconnues. Mais il doit quand même se présenter en déontologie. Et il semble qu'il y aurait eu minimalement 8 rencontres de nature sexuelle, puis des textos très explicites qui ont été échangés, puis il aurait fait ça avec son téléphone du service de police. Disons que c'est assez particulier. Pour ce qui est de l'éclipse, vous le savez, c'est encore assez compliqué. Il y a des écoles qui s'ajustent pratiquement tous les jours. C'est ce que disent les comités de parents. Alors, on sait pas trop pourquoi exactement, là, puis il me semble que ça montre l'improvisation de tout ce qui se passe concernant l'éclipse. Alors, il y aura des activités à l'école, dans certaines écoles, dans d'autres pas. Et tout ça, ben c'est lundi prochain. Et je rappelle la prévision météo pour lundi prochain. Ben ça s'annonce quand même ensoleillé avec 16 degrés. Et on en parle sans arrêt là, sur les lunettes, sur la façon de se comporter au moment de l'éclipse. Et puis en terminant, un mot pour dire que ce matin, on apprend en France que Jean-Marie Le Pen, qui a 95 ans, ne va pas bien, qu'il a été placé une forme de tutelle sur le plan juridique. Et ce sont ses proches qui ont confirmé cette demande qui a été faite. Alors, il est en perte d'autonomie et problème cognitif, semble-t-il, assez sérieux pour Le Pen, qui, je le rappelle, a 95 ans.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan.
On va parler de la consigne qui sera élargie à compter du 1er mars 2025. Le 1er mars 2025, c'est comme demain. Et élargi donc pour les bouteilles de vin en verre et les contenants de carton multicouche qu'on retrouve pour le lait, par exemple, et le jus. On doit ouvrir 200 lieux pour nous permettre d'aller porter ces contenants. Ça s'appelle des lieux de consigne-action. Et là, on croit comprendre que l'objectif de mettre ces lieux en opération d'ici le 1er mars, ça semble assez compliqué. Normand Bisson est avec nous. C'est le PDG de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons. Monsieur Bisson, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Donc, si on prend ça du début, il y a une date qui a été fixée, un objectif pour le 1er mars, 200 lieux de retour établis à travers le Québec.
Oui, c'est bien ça. En fait, on a établi que à terme, on voudrait avoir environ 400 dépôts installés. Cependant, d'ici à mars 2025, on vise les 200 premiers.
À ce jour d'aujourd'hui, là, il y a combien de lieux qui ont été aménagés, construits ou encore qui sont en construction?
On a présentement 4 lieux de retour qui sont en construction, 3 qui sont, pour ainsi dire, terminés. Et on est en train de démarrer le projet sur d'autres zones.
Entre 4 et 200 sur une période d'un an, il me semble que la marche est haute.
Vous avez tout à fait raison. L'objectif est extrêmement ambitieux. Vous savez, la QRCB, Consigne Action, on a mis en place La première phase de modernisation au 1er novembre dans des délais qui étaient extrêmement courts également. On s'est souvent fait demander si on allait y arriver ou non, même jusqu'à octobre, je vous dirais. Et c'est évidemment la même chose pour la deuxième phase. La deuxième phase, 200 lieux de retour d'ici mars 2025, c'est énorme. Alors, nous, on doit le séparer par objectif par trimestre. On rencontre nos objectifs à chaque trimestre. On va être là pour mars 2025.
OK, vous êtes convaincu d'être capable de livrer ça pour mars 2025?
Ouais, nous, on travaille avec cet objectif-là. Il y a des délais réglementaires qui ont été fixés. Ça, c'est nos règles du jeu. Alors, nous, on travaille à l'intérieur des règles du jeu. On a évidemment un projet comme celui-là, comme vous devinez, c'est extrêmement complexe. Ça implique beaucoup de partenaires externes, mais on fait ce qu'on a à faire à la QRCD pour rencontrer l'objectif.
OK, expliquez-moi les obstacles, les embûches, le fait qu'il y ait beaucoup de partenaires. Vous vous heurtez à quoi?
Ben, c'est sûr que le plus grand défi, c'est évidemment la question du délai, parce que, comme je vous disais, jusqu'au 1er mars, nous, on a beaucoup mis d'efforts pour être prêts pour le 1er mars, pour recevoir les nouveaux contenants, mettre en place la nouvelle réglementation. Donc c'est une question de délai. On a passé le 1er mars, ça fait maintenant 4 mois. 4 mois, c'est pas beaucoup. Ces 4 mois-là ont servi à faire la planification pour l'implantation des lieux de retour qu'on va avoir. Enfin, vous savez, 4 mois plus intenses pour planifier l'ouverture de 200 lieux de retour, c'est extrêmement court. Donc c'est beaucoup la question des délais. Puis au niveau des partenaires, bien sûr, il faut travailler avec tout le monde. Si on a 200 lieux de retour au 1er mars, c'est-à-dire qu'on veut aussi une participation des détaillants en alimentation qui continueraient de récupérer des contenants dans leurs magasins. Alors, on doit s'assurer avec eux qu'ils adhèrent à notre modèle et qu'on puisse faire les modifications d'équipement dans leurs magasins pour être en mesure de bien desservir les citoyens.
OK, je vais prendre ça par étapes, puis je vais traduire ce que certains me disent. D'abord, vous me parlez des détaillants. On me dit, peut-être pas tous, là, mais qu'il y a un niveau de résistance élevé, qui trouve ça compliqué, votre affaire. Vrai ou faux?
Les détaillants sont préoccupés par deux choses principales, c'est-à-dire le retour de contenants de lait dans leur magasin et aussi la gestion des contenants de verre dans leur magasin. Nous, on propose des solutions qui vont être facilitantes, mais les détaillants ont bien sûr des craintes par rapport à ça.
OK. On me dit également que dans certains cas, pour les projets d'implantation de ces consignes-actions, vous avez la ville qui vous donne le permis pour occuper l'endroit où vous avez ce premier permis, mais que le permis de construction pour faire les travaux, ça traîne.
Mais en fait, il y a deux permis principaux, c'est-à-dire le permis d'utilisation, on va l'appeler comme ça pour simplifier, là, okay. du local dans l'objectif qu'on veut l'utiliser. Puis après ça, le deuxième, c'est effectivement le permis de construction, démolition, là, des deux, soit séparément, soit ensemble. Puis pour ce deuxième permis-là, ben il faut qu'on dépose les plans d'architecture, les plans des travaux et tout. Donc, il y a évidemment des choses à vérifier par les villes, hein, au niveau, que ce soit au niveau du service des incendies, à tous les niveaux. Dans le fond, ils veulent s'assurer que les locaux vont être conformes. Donc oui, ça prend un certain temps.
OK, mais c'est ça qui est paradoxal un peu. C'est qu'on vous donne rapidement, ou en tout cas assez rapidement, le permis d'utiliser le local, mais pour pouvoir l'aménager correctement, ça traîne.
Ben, vous savez, c'est sûr que c'est une étape qui peut prendre un peu plus de temps, mais moi, je n'aurais pas tendance à jeter la pierre aux municipalités là-dessus jusqu'à présent, parce que c'est vraiment le délai complet du projet qui fait qu'on est en mode accéléré. Par exemple, si une ville prend quelques semaines jusqu'à un mois et demi pour délivrer un permis comme celui-là, ben en temps normal, dans l'opération courante d'une ville, c'est pas des délais qui sont déraisonnables.
Mais est-ce que ce sont des délais qui sont plus longs ou qui pourraient être plus longs que parce que ça me paraît rapide, 3 semaines ou un mois?
C'est des délais qui sont en fait relativement courts jusqu'à présent parce qu'on a une bonne collaboration des municipalités avec lesquelles on a travaillé. Là, bien sûr, on va ouvrir 200 dépôts à la grandeur du Québec. Alors, c'est difficile pour moi à ce stade-ci de vous dire quel sera le niveau de collaboration de toutes les villes au Québec, mais celles avec lesquelles on travaille, que ce soit Montréal, Granby, Longueuil, etc., jusqu'à présent, ça va bien. La collaboration est bonne, mais c'est sûr que c'est extrêmement court, comme on se dit depuis le début, c'est extrêmement court comme délai.
Bon, Je voudrais qu'on se place ce matin dans la perspective du citoyen. Consigne action, là, théoriquement, là, toujours, là, mais à partir du 1er mars 2025, ça va fonctionner comment? Qu'est-ce que vous dites aux citoyens que ces bouteilles de vin en verre et ces cartons de lait et de jus, comment ça marche?
Bon, au 1er mars 2025, on devrait avoir 200 lieux de retour qui sont dédiés spécifiquement au retour de contenants. Puis ça, c'est nécessaire parce que à partir du 1er mars 2025, il y a les contenants que vous avez mentionnés. Il y a aussi les bouteilles d'eau. Hein, c'est à peu près 1 milliard de bouteilles d'eau qui vont être consignées. Alors, c'est 5 milliards de contenants au total qui sont à récupérer. Avoir voulu maintenir le modèle actuel tel quel avec retour chez les détaillants, ça aurait été impossible à cause des volumes à gérer. Alors, donc, on va avoir des lieux spécifiquement dédiés pour les retours de contenants. Ces lieux-là vont être extrêmement facilitants pour les citoyens. Ils vont être sur le parcours régulier de magasinage. Il va y avoir des nouvelles technologies qui permettent de traiter les contenants rapidement. On va permettre aux citoyens même d'accumuler des contenants dans un sac, laisser leur sac au comptoir de dépôt pour que nous, on fasse le décompte plus tard puis qu'on fasse le paiement électronique, juste pour que ce soit encore plus rapide aux citoyens s'ils ne tiennent pas à avoir le paiement en argent sur place. Il peut laisser son sac, continuer son chemin. Puis en parallèle à ça, il va toujours y avoir aussi une infrastructure de retour, donc les fameuses gobeuses en magasin qu'on connaît, mais on va mettre en place des nouveaux équipements qui sont capables non seulement de compacter aluminium, plastique, carton, mais aussi de concasser le verre, parce que le verre à gérer manuellement en bouteille ronde non concassée, ce serait vraiment très compliqué au niveau logistique. Donc, nous, on veut mettre en place des équipements qui vont concasser le verre sur place.
Est-ce que, dans les analyses que vous faites, ça veut dire que tout ce que vous me nommez comme matière sera recyclé à 100% ou s'il y a un pourcentage de perte?
Oui, présentement, dans le système de consigne, 100% des contenants sont recyclés. Puis notre objectif au 1er mars, c'est que les nouvelles matières qui vont être sous consigne vont aussi être recyclées à 100%.
OK, puis il y a un marché vraiment pour ça?
Il y a un marché pour toutes les matières. Généralement, on est même capable de faire le conditionnement et le recyclage au Québec. Il y a certaines matières, comme vous savez, par exemple l'aluminium, où il n'y a pas d'usine au Québec en mesure de faire fondre et refaire des nouvelles canettes avec nos canettes. Donc, pour l'aluminium en particulier, ça va plus vers la partie est, nord-est des États-Unis. Mais sinon, je vous dirais que le recyclage peut même être fait en grande partie au Québec, là, dans des régions limitrophes. Donc, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus.
Est-ce que vous prévoyez d'installer des lieux de consigne-action, par exemple, adjacents à une succursale de la SAQ?
Pas nécessairement. On n'est pas en train de travailler spécifiquement avec une chaîne. Tous les détaillants qui font la vente de contenants consignés ont une obligation de récupérer directement ou à travers un regroupement de détaillants. Et nos dépôts vont être vraiment totalement, nos lieux de retour consignation vont être totalement indépendants des détaillants, mais sur le chemin du magasinage. Alors, est-ce que c'est à côté d'une SAQ, d'un métro, d'un IGA? Pas nécessairement, mais sauf que ça va être souvent dans le même centre commercial ou pas très loin, parce qu'on veut pas engendrer des déplacements supplémentaires importants chez les citoyens. C'est ça, on veut s'assurer d'avoir un très haut taux de récupération. Puis le règlement nous demande de viser 90% de taux de récupération. Ben évidemment, on veut éviter qu'il y ait beaucoup de déplacements des citoyens, et pas nécessairement totalement adjacent à un détaillant en alimentation.
Merci, Monsieur Bisson. Bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée.
Normand Bisson est le président directeur général de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons, ce qu'on appelle maintenant Consigne Action.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Donc, Environnement Canada qui nous envoie un avertissement de neige pour le Grand Montréal. Et on parle d'une accumulation qui pourrait être importante. Hier, on avait l'impression que oui, il y aurait de la neige, mais qu'elle serait fondante, qu'il n'y aurait pas d'accumulation au sol. Il semble que le scénario a changé. Jean-Charles Beaubois est avec nous, qui est le président de Météo Global. Monsieur Beaubois, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Alors, qu'est-ce qu'on prévoit pour les prochaines heures, là, à compter de ce soir?
Alors, pour les prochaines heures, donc, les précipitations vont débuter aujourd'hui en fin d'après-midi aux alentours de 17-18 heures. Ça va être tout d'abord de la pluie jusqu'à minuit, voire une heure du matin. Ce sera de la pluie avec une accumulation aux alentours de 5 à 7 millimètres de pluie. Et ensuite, cette pluie va progressivement se changer en neige. Alors, c'est sûr que les températures restent quand même très limites. On est autour de moins 1 à moins 2 degrés entre 4 heures du matin et 10 heures du matin demain. Donc, c'est sûr que pendant cette période-là, on va avoir une accumulation de neige. En début de période, en plus, les accumulations peuvent être rapides. Il y a des modèles qui s'emballent vraiment de façon très importante, puisque il y a certains modèles qui montent jusqu'à 30, 34, 35 et plusieurs centimètres. Mais c'est évidemment, comme je le disais hier, c'est 34, 35 centimètres qui vont tomber sur une chaussée qui va grimper encore à 10 degrés aujourd'hui. Donc, on va avoir une grosse différence entre, par exemple, les jardins et la chaussée ou les trottoirs où l'accumulation sera probablement plus faible. Néanmoins, c'est sûr que la période de température négative semble être un peu plus longue que ce que les modèles disaient hier. Donc, on va parler probablement pour les routes entre 5 et 10, peut-être 15 centimètres possible d'accumulation sur les chaussées. Ce sera un peu plus, comme je vous le disais, dans les jardins. Et puis, en fin de journée, les températures repassent la barre des 0 degrés, sont à nouveau positives. Et donc là, on devrait avoir une fin d'accumulation. De toute façon, les quantités de précipitations et les précipitations devraient s'arrêter demain vers 22-23 heures. Ensuite, pour le début de la journée de vendredi, on a encore quelques averses sous forme de neige, mais vraiment une accumulation ultra faible. On parle d'un centimètre entre minuit et 5 heures du matin pour le début de la journée de vendredi. Bon. Voilà un peu le scénario qui semble privilégié maintenant par à peu près tous les modèles météo.
Bon, ça veut dire concrètement une bonne bordée de neige là pour les prochaines heures avec de la pluie et du temps gris qui devrait nous quitter probablement là quoi samedi matin.
Oui, ben vu les quantités de précipitations qui vont tomber, moi je me méfie un peu. Ça va être plutôt pour moi dimanche matin okay. Que vraiment la grisaille va nous. C'est sûr qu'il y aura une amélioration dans l'après-midi de samedi avec déjà quelques petites éclaircies, mais vraiment un vrai retour à un ciel un peu plus dégagé. Ce sera plutôt pour la journée de dimanche. Et pour celle de lundi, comme vous le disiez tout à l'heure, ça semble acquis aussi. On devrait garder un ciel relativement dégagé, même s'il y a quelques modèles qui mettent quelques passages nuageux aux alentours de 14 heures, puisque l'éclipse, ce sera dans ces eaux-là. On pourra avoir quelques passages nuageux, mais pas suffisants pour nous gâcher le spectacle.
Merci, M. Beaubois. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Jean-Charles Beaubois est président de Météo Global. Et donc, pour l'éclipse, jusqu'à maintenant, on parle de température exceptionnelle. C'est une journée ensoleillée, quelques nuages, mais 16 degrés. Parlons d'agriculture. On a vu la colère exprimée par les producteurs français, des manifestations, des perturbations sur des routes. Tout ça parce qu'ils se sentent délaissés, ils se sentent écrasés par le poids des coûts de production, par les taux d'intérêt. Si c'est vrai en France, c'est également vrai pour les producteurs du Québec qui doivent jongler avec les augmentations des coûts de production, les taux d'intérêt, c'est le même phénomène. Il y a différents modèles de fermes qui existent. Ce matin, je vous présente une productrice qui est copropriétaire de la ferme Selby, c'est à Donham. C'est une petite production, mais ça traduit ce que vivent beaucoup de gens à travers l'agriculture au Québec. Elle s'appelle Laurence Levasseur. Madame Levasseur, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan. Merci beaucoup de l'invitation.
Ben, ça me fait plaisir, puis très content que vous soyez là. Je veux apprendre à connaître un peu votre parcours. Vous êtes copropriétaire avec votre conjoint de la ferme et vous produisez quoi, une centaine de porcs, ce qu'on appelle des cochons rustiques.
Oui, exactement. C'est notre 11e année de production cette année. Des fois, ça paraît un peu étonnant pour nous. Moi, je viens d'un milieu agricole. Mon conjoint, non, mais il a travaillé dans le domaine pratiquement toute sa vie. Il a étudié aussi là-dedans. On a commencé en 2013, donc on a un petit élevage de porcs rustiques qu'on élève à l'extérieur, au pâturage. Donc, les porcs justiques, c'est des races traditionnelles, des races anciennes de porcs qui sont justement adaptées pour être élevées à l'extérieur à l'année. Puis on a un peu un élevage aussi diversifié qu'on appelle, on a un peu de volailles, de poulets, de dindes, on vend des œufs. Puis on fait de la mise en marché de proximité. Donc ça veut dire qu'on vend nous-mêmes nos produits à la ferme et dans des restaurants, par exemple, des boucheries spécialisées, des épiceries fines.
Et quand on dit la production, c'est de la naissance jusqu'au moment de la vente?
Oui, exact. Des fois, ça, c'est ça qui nous différencie un peu d'un élevage plus conventionnel. Donc, nous, on a les reproducteurs, les truies, les verras à la ferme. Les porcelaines naissent à la ferme et on les élève jusqu'à l'abattage pour la viande. Souvent, dans des élevages conventionnels, c'est divisé en secteurs, si je peux dire. Il y a des maternités et les porcelets sont élevés dans des fermes différentes. Nous, on fait vraiment de A à Z, même une partie de la transformation, mais la boucherie abattage, c'est fait par des abattoirs inspectés.
Bon, vous êtes, avec votre conjoint, des jeunes producteurs. D'abord, de pouvoir acheter une ferme comme ça, ça a été compliqué, ça a coûté cher. Quel a été le parcours de...
Oui. Ben, on est chanceux dans un sens parce que nous, on a acheté où on est en ce moment, on a acheté en 2017. Si on avait acheté aujourd'hui, en 2024, ça serait impossible, je suis pas mal certaine. On a été très chanceux, c'était un producteur qui avait pas de relève. Puis qui avait mis sa terre, qui avait pas mis en fait sa terre à vendre avec un courtier et tout ça. Donc ça s'est vraiment fait amicablement, puis il était vraiment généreux aussi. Donc on a été chanceux à ce niveau-là. On a été aussi aidé de la financière agricole du Québec qui nous a permis de nous donner ce qu'on appelle une garantie de prêt. Donc on avait monté un plan d'affaires. C'est sûr que c'est long, là, ça a été très long, mais on avait monté un plan d'affaires et tout ça, puis la financière nous avait il avait garanti le prêt, dans le fond, auprès d'une institution financière. Mais si ça serait à refaire, probablement qu'on pourrait pas, parce que je pense que notre terre vaut au moins le triple de ce qu'on a payé en 2017. Là.
Mais là, ça veut dire que depuis 2 ans, après les premières années, puis c'est toujours évidemment difficile, puis c'est précaire, mais depuis 2 ans, là, disons que les coûts de production ont explosé.
Oui, exactement. Je me suis noté des chiffres. C'est tout le temps flagrant quand on les voit en chiffres, mais c'est un peu l'exemple que j'ai montré en fin de semaine avec ma publication sur les réseaux sociaux. Les coûts, il y a l'augmentation des coûts dans les intrants, puis ça touche, je veux dire, tous les niveaux de ferme, là, grosse ou petite taille, sur les grains, l'alimentation animale, les minéraux, le carburant, la litière dont je parlais dans ma publication sur Facebook. C'est des coûts il y en a qui ont doublé, il y en a que c'est un peu moins, mais il y en a beaucoup qui ont doublé. Donc, puis les taux d'intérêt. Donc, c'est sûr que ça a un impact sur tous les types de fermes, mais c'est un impact vraiment brutal, si je peux dire.
Puis vous devez avoir avec votre conjoint des emplois à temps partiel actuellement.
Oui, c'est ça. Nous, c'est comme je disais tantôt, c'est notre 11e année. Puis normalement, quand tu commences en agriculture, tu te dis, bon, un jour, j'espère en vivre puis faire que ça. Mais nous, justement, comme vous dites, depuis 2 ans, là, c'est vraiment drastique ce qu'on a vu. Depuis 2 ans, on doit avoir les deux. On a des emplois à l'extérieur à temps partiel. Moi, j'ai 2 emplois à temps partiel à l'extérieur. Mon conjoint aussi, il fait aussi ce qu'on appelle un peu des job-in. Mais on doit avoir des emplois à temps partiel parce que notre revenu actuellement, il suffit pas pour combler nos obligations financières.
Est-ce que vous regrettez de vous être lancé dans cette aventure?
Non, étonnamment, tout le monde, c'est avec tout ce qu'on énumère, tout ce qu'on entend en ce moment, c'est sûr que c'est difficile, mais on a tout le temps les fameux moments que t'es sur ta terre, t'es content de voir tout ce qui est autour de toi, les animaux, tout ça. On espère juste pouvoir être capable de retransmettre ça à nos enfants, mais non, je regrette pas parce que tu sais ce qui nous tient, c'est vraiment la passion de travailler la terre, l'agriculture, mais c'est sûr que s'il n'y a pas une sensibilisation, une reconnaissance là, bientôt. Peut-être que je vais changer d'idée, mais pour l'instant, je regrette pas parce que je trouve que l'agriculture, c'est le plus beau métier du monde, mais je vous avoue que c'est quand même très difficile en ce moment.
Mais c'est important de vous entendre, puis chaque ferme, chaque travailleur agricole, c'est un modèle qui varie énormément, mais, mais c'est important que les gens de la ville, les urbains, les, soient sensibilisés à cette réalité-là, là, parce que c'est dur.
Oui, c'est ça, mais ce qu'on remarque en ce moment, c'est que tu sais, souvent dans le passé, on l'entend souvent, il y a des crises dans des secteurs, tu sais, dans le lait, tout ça, mais là, ce qu'on remarque, c'est vraiment des enjeux qui touchent tous les secteurs de l'agriculture, toutes les fermes, que ce soit une ferme comme la nôtre de proximité, de vraiment petite taille, ou des fermes plus grande taille, plus conventionnelles ou industrielles, c'est que ça touche toutes les fermes, donc ça a vraiment un impact sur le visage de notre agriculture, sur nos campagnes. Tu sais, il y en a beaucoup qui, tu sais, on est chanceux nous dans un sens, mais il y en a beaucoup qui doivent soit fermer la porte ou vendre. Tu sais, c'est inquiétant pour les prochaines années. Là.
En terminant, je veux mettre en lumière aussi ce qu'on appelle le voisinage. Vous êtes dans la région de Donham. Il y a votre voisin qui m'a envoyé un petit message ce matin. Monsieur Dalpé, dit qu'il vous trouve parfois de la rip, qu'il va chercher chez des petits ébénistes, puis vous lui prêtez une parcelle de vos terres pour qu'il puisse laisser ses vaches se promener, puis de temps en temps, il va vous donner un coup de main.
Oui, à mon Dieu, j'ai dit à mon chum, j'espère que je ne vais pas pleurer, mais vous voyez, ça, c'est des choses qui m'émeut. Oui, c'est un bel exemple parce que la rip, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, ça augmenté de 50%. C'est pas des gros coûts parce que ça a passé de 5 $ à 9 $, mais quand ça s'accumule, c'est beaucoup. Donc, oui, d'avoir un voisin qui m'amène de la RIP gratuitement, qui prend le temps de le faire, ça vaut de l'or, là. Ouais, on a vraiment un bon entourage, on est chanceux, puis c'est un peu comme ça c'est comme ça dans le monde agricole. On se soutient, puis je pense que c'est ça aussi qui nous permet de continuer.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Lâchez pas.
Merci, monsieur Arcand.
Au revoir. Laurence Levasseur est copropriétaire de la ferme Selby, c'est à Donham.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Depuis quoi? 5 ans maintenant, les contrôleurs routiers du Québec se battent pour obtenir le droit d'avoir des armes à feu. Et c'est rendu une saga qui se déroule devant les tribunaux. Avec nous ce matin, Jean-Claude Daigneau, qui est le président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec. Monsieur Daigneau, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcand.
Pourquoi vous voulez avoir des armes à feu?
Ben, c'est pour notre sécurité, l'environnement. Moi, ça fait 30 ans que je suis contrôleur routier, l'environnement a complètement changé. Maintenant, on fait affaire beaucoup plus avec le crime organisé. Des gangs de rue aussi, là, parce que le transport, mettons, de véhicules volés, ça se fait tout le temps via des camions. Puis nous autres, notre mandat premier, c'est l'interception des véhicules lourds, les camions, les autobus, les taxis.
OK. Pourriez-vous élaborer sur les changements des dernières années? C'était comme ça il y a 10 ans, mais maintenant, là, c'est plus la même réalité. Donnez-moi des exemples de ça.
Au tribunal, dans le fond, on a fait un retour sur les 10 dernières années, là, mais juste les réseaux sociaux, là, les menaces de mort qu'on a, on n'avait pas ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, on en a de plus en plus. Après ça, le crime organisé s'est immiscé, si on veut, là, dans le transport de véhicules volés, de drogue, de pilules. J'ai de mes membres là, qui ont intercepté une des plus grosses cargaisons de tabac de contrebande à Valleyfield, 1,5 million de dollars. On a eu aussi des pilules, amphétamines, tout ça, pour 4 millions de dollars à Montréal. Puis ces véhicules-là sont la plupart du temps là, escortés par des gens qui sont armés, parce que le chauffeur du camion, lui, souvent, dans notre jargon, on appelle ça une mule. Lui, il n'est pas trop au courant de ce qu'il transporte, mais il y a des gens qui... C'est comme la police d'assurance là, qui suivent en arrière.
Puis est-ce que ça a déjà dégénéré? Est-ce qu'il y a déjà eu des contrôleurs qui ont été attaqués, blessés?
Ben oui, on en a eu. En fait, on a eu une de nos membres qui a été attaquée la semaine passée là, sur l'autoroute 15 à Saint-Jérôme. Mais c'est comment je vous dirais ça? J'en ai eu qu'un camion a foncé volontairement dans le véhicule de patrouille. C'est de plus en plus, on a une récurrence de ces événements-là là, qui se rapprochent comparativement à ce qu'on voyait il y a 10 ans. Là, c'était un de temps en temps. Maintenant, c'est presque à toutes les semaines qu'il se passe quelque chose.
Quand vos membres patrouillent à travers le Québec comme ça, interceptent des véhicules, et bon, vous constatez qu'il y a un problème, là, puis que c'est pas juste une question du ministère des Transports, là, est-ce que vous faites appel à la Sûreté du Québec? Comment se passe le temps de réponse?
Écoutez, ça aussi, c'est une problématique, là, parce que quand on constate, mettons, des armes à feu, on a saisi plusieurs armes à feu depuis 2 ans là, dans des véhicules, parce que les contrôleurs routiers, on est les seuls qui ont le pouvoir de faire ouvrir tout espace de chargement sans mandat. C'est un pouvoir qui nous est donné par le Code de la sécurité routière. Et évidemment, quand on veut vérifier l'espace de chargement puis qu'on tombe, mettons, sur de la drogue ou des armes à feu, ben là, nous autres, on va mettre le conducteur en état d'arrestation puis on appelle la police. Ben, c'est là qu'est le problème, là, dans la saisie d'armes à feu où il y avait un AR-15. Ben, ça a pris 30 minutes avant que la police arrive puis la personne, finalement, avait 2 autres armes à feu avec elle. Fait que on est tributaire un peu là du bon vouloir de la personne qu'on va intercepter.
Pourquoi l'État veut pas? Puis là, c'est une bataille, je le disais, qui dure depuis 5 ans. C'est une question de salaire. Une fois que vous êtes armé, vous changez de catégorie, ça va coûter plus cher?
Non. Ça, c'est un débat que j'ai entendu depuis 30 ans. Là. Ah, ils veulent être armés pour avoir plus de salaire.
Exact.
J'ai le même salaire présentement que les agents de conservation de la faune qui sont armés. On a un meilleur salaire que les constables du palais qui sont armés. C'est vraiment pas là. C'est un outil de travail. C'est pour la sécurité. Puis pourquoi que ça bloque? Écoutez, ça prend un alignement des planètes. Nous autres, on relève de l'Agence contrôle routier Québec qui relève de la SAC, du ministère des Transports. Puis cette décision-là vient du MSP et aussi du ministère de la Justice. Fait qu'il faut que tout le monde se parle. Et le débat qu'on a engendré au tribunal, ben, c'est parce que quand on a essayé de parler avec tout le monde, c'est compliqué d'aligner toutes les planètes.
Mais j'essaie depuis le début, ça fait longtemps, on s'est parlé à quelques reprises là-dessus, là. J'essaie juste de comprendre le pourquoi. Pourquoi l'État veut pas permettre à des constables qui font du contrôle routier là, d'être armés parce que, comme vous dites, la donne a changé, là. J'essaie de voir l'enjeu. Il y a quelque part dans la machine quelqu'un qui résiste, là, qui dit, là, ils s'en viennent jouer dans notre cour. C'est quoi le problème?
Écoutez, c'est bien dur pour moi de mettre le doigt sur le bobo.
Mais vous devez avoir une petite idée. Vous connaissez un peu, là.
Ben, ça reste quand même, c'est où? Mais je vous dirais que les gens ne connaissent pas notre travail à la base. Fait que quand on arrive, je vous conte une anecdote, là, mais je suis arrivé à un moment donné au MTQ il y a plusieurs années, puis la personne qui était la conseillère du ministre des Transports de l'époque, elle me dit ben vous travaillez juste en période de dégel parce qu'ils nous associaient juste à faire des surcharges. Fait que, tu sais, on part loin, puis les gens, ben, ils savent pas, mettons que les contrôleurs, ils ont 21 semaines de formation à l'école de police, que ça, on applique 12 lois, 44 règlements. Fait que quand on commence à expliquer ça, c'est parce que les gens ont tendance à individualiser le travail à leur propre façon de faire, ou comme les camionneurs souvent, ils pensent juste qu'on fait des billets de surcharge, des billets d'arrimage, mais c'est beaucoup plus que ça, le travail, là. Fait que, je vous dirais juste, la plupart des automobilistes, là, mettons, tout ce qui est plaqué commercial avec une plaquette. On peut toutes les intercepter. On peut donner des constats d'infraction pour une ceinture de sécurité. Les gens sont tout le temps très étonnés, alors que ça fait 30 ans qu'on peut le faire.
Mais les véhicules personnels, vous pouvez pas le faire.
Les trois lettres, trois chiffres, là, ça relève de la police. Nous autres, on peut les intercepter dans des cas très, très graves, là, comme au code criminel, parce que les contrôleurs routiers appliquent une partie du code criminel. On peut les intercepter. C'est votre question est très simple, mais la réponse est comme super compliquée.
OK, ça veut dire que là, ça se poursuit encore devant les tribunaux.
Écoutez, M. Arcand, ça fait 5 ans qu'on a commencé cette démarche-là. 17 journées d'audience, on est presque dans un record. Là, c'est les plaidoiries finales, si ça a lieu, là, parce que tu peux toujours avoir un report, là, mais ça va commencer tantôt. Là, je m'en vais après.
Dites-moi, ailleurs au Canada, dans les autres provinces, ça se passe comment?
Ben, il y en a plusieurs maintenant qui sont armés. Dans l'article que j'ai vu, on parlait de 3 corps, mais je sais que le Nouveau-Brunswick ont été armés, l'Alberta, la Saskatchewan, je pense qu'en Colombie-Britannique, ils vont l'être. En Ontario, ils sont presque accompagnés tout le temps d'un policier. Fait que c'est. Puis la chose, je veux juste être clair aussi, les contrôleurs, on veut pas faire la job de la police, là. Nous autres, on veut être capable de faire notre travail, mais de le faire au complet. Là, présentement, on en fait des petits bouts partout. C'est ça qui rend aussi les délais très, très longs quand on appelle les policiers.
Monsieur Desnoyers, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Ben, merci, Monsieur Arcand.
Jean-Claude Desnoyers est le président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec. Vous avez sans doute vu ces images d'une partie de hockey mineure sur la Côte-Nord qui a complètement dégénéré. Alors qu'il y a une équipe, c'était l'égalité, 1-1, il y a une équipe qui marque et le but est refusé. Et là, ça en est suivi, évidemment, bagarre sur la glace, les arbitres sont intervenus, et ça a débordé même à l'extérieur de l'aréna, si vous voulez, au sein des communautés. J'en parle d'abord ce matin avec David Jean-Pierre, qui est le président de l'Association de hockey mineur de Ouachat-Mac-Mané-Outenam. Et c'est un de ces clubs qui participait à ce match contre la formation de Baie-Comeau. Monsieur Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, racontez-nous ce qui s'est passé durant le match. Là, dans vos propres mots, là, comment le match a évolué puis qu'est-ce qui a provoqué là, ce soulèvement?
Oui, ben c'est une belle introduction, mais de notre côté, là, entre Baie-Comeau et Mal-Outenam, il y a un long historique aussi que les médias n'ont pas pris le temps de partager aussi. Là, j'ai l'impression que je dois partager cette information-là un matin. Ça fait des années que c'est de même, puis ça en est dangereux pour nos jeunes. Puis de mon côté, en tant que président, ma première année de gestionnaire de l'association, c'est vraiment ça qu'on veut changer. On veut changer la mentalité. Puis on a une rencontre d'urgence avec Hockey Côte-Nord, avec les autres associations de la région. On a une région... Qu'il faut s'adapter. On a beaucoup de communautés inoues. On a des villes qui... On se mélange nos cultures, puis c'est tout à fait normal. C'est beau à voir. Là. On n'est plus dans les années 80-70 où ça faisait un peu plus dur. Là. Mais où, pendant la finale régionale, là, c'est un sifflet beaucoup trop rapide. Là, monsieur Arca, c'est pire que le but d'Alain Côté. Là, c'est la discussion.
Mais la discussion n'est même pas vraie. OK, monsieur Jean-Pierre, je reviens à ce que vous avez dit en introduction. Les relations, oui. Je sais pas comment les qualifier, avec Baie-Comeau, qu'est-ce que vous voulez dire?
Il y a un historique là-dedans. Depuis l'événement, là, il y a plein de monde qui sont rendus à 40-50 ans qui disent « David, quand on est allé à l'aréna à Baie-Comeau, on pouvait même pas sortir de l'aréna sans l'aide de la police. La SQ devait nous escorter à l'extérieur de l'aréna. » Là, il y a eu de l'amélioration. C'est important de mentionner qu'il y a eu beaucoup d'amélioration. Mais le hockey est malade. C'est ça qu'il faut, en tant qu'association, là, je dois dire ça. Le hockey est malade. Nous, en tant qu'association, qui est de Ouachat-Mac-Mané-Outenam, on ne tolère pas la violence qui est arrivée sur la glace. Puis on demande à Hockey Côte-Nord et à Hockey Québec que la sécurité des jeunes puisse être prise en compte, puis qu'améliorer les meilleurs, je pourrais dire, le meilleur contrôle.
Bon, sur la glace, quand le but a été refusé, puis il y a eu l'échauffouré, il y a même un joueur qui a été comme maintenu au sol là, par un des arbitres.
Ouais. Mon chef du conseil de bande ici, Tawad McMalotenam, par un communiqué, a partagé ses infos. On remercie le chef Mike McKenzie d'avoir pris le temps de sortir un communiqué, de venir aider l'équipe Bantam M11, M15B qui ont joué une belle finale, qui ont joué dans les règles de l'art. Mais on a discuté avec Hockey Québec, puis ils disent que l'arbitre n'utilise pas une force
excessive
face aux jeunes. De notre côté, c'est pas prendre en compte toute l'historique, c'est pas prendre en compte qu'est-ce que le match est arrivé, c'est ignorer beaucoup d'informations puis prendre une décision rapide qui a pas rapport.
Je vais vous poser la question directement. Pensez-vous que c'est un geste raciste?
Non, on ne crie jamais au racisme. On est rendu en 2024, monsieur Arquet. Il y a beaucoup de monde qui suit les tendances, qui a Émile Bilodeau qui est vraiment hâte avec les Autochtones. On a beaucoup d'exemples qui veulent rassembler les cultures au Québec. Bon, ça, on en est très fiers. Mais jamais on veut crier au racisme. On dit juste que c'est pareil pour l'association de Tétil, qui est une ville à l'automne. Il y a eu des décisions qui ont été impartiales, puis c'est ça qu'on veut partager ici avec l'événement.
Mais vous dites, tantôt à la blague, le but, comme Alain Côté, vous dites, il était bon le but. L'arbitre a sifflé trop rapidement, c'est ça?
Là, je suis avec une radio de Montréal, là, le but n'était pas bon, on va dire. Mais le but, là, c'est, ben, si vous avez vu, puis je suis content que la vidéo s'est rendue jusqu'à dans la région de Montréal, mais le sifflet était beaucoup trop rapide. Là. J'ai beaucoup d'arbitres qui m'ont texté puis m'ont dit, David, là, ça n'a aucun rapport, qu'est-ce qui s'est passé? Le sifflet est beaucoup trop rapide, je comprends pas ce que c'est passé.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des manifs dans la communauté au lendemain de cette défaite?
Manif, c'est un grand mot. C'est plus des parades. Puis les parades, okay. C'est populaire dans notre communauté. On fait ça même après les victoires des Canadiens en série. Là, on fait des parades à 9h de Montréal pour célébrer la victoire des Canadiens. Mais non, c'était juste pas une manifestation, mais une parade pour dire que on s'est fait voler, mais on va grandir de ça. Là. On est un peu résilient et fier. C'est vraiment ça qu'on voulait faire avec la parade. Puis les jeunes, ils vont grandir de cet événement-là. Puis on veut pas que ça tombe vers le négatif, puis qu'ils tombent traumatisés, puis qu'ils veulent plus jouer au hockey. C'est vraiment ça le but de la parade.
C'est vrai qu'ils ont brûlé leur médaille d'argent?
Oui, ils ont brûlé leur médaille d'argent. Nous, du côté de Watt, Mike Malotenam, on continue à croire que le but était bon. Là, c'était vraiment. J'arrête pas de le dire à tout le monde, là, mais avec un meilleur contrôle d'arbitre, avec peut-être un meilleur arbitre sur le jeu, là, je veux pas dire à Hockey Côte-Nord d'envoyer les arbitres de la Ligue nationale en finale régionale dans la catégorie B. Mais quelqu'un qui contrôle la game, puis qui tu comprends, c'est un jeu serré devant le but en prolongation, bouge les patins, avance pour chercher la rondelle, fait pas un sifflet en dedans de 0,5 secondes. C'est vraiment ça qu'on veut partager nous autres en tant qu'association.
Puis ce que vous avez souligné au départ, c'est l'historique de tension entre Baie-Comeau puis votre communauté depuis des années. Est-ce que ça s'était un peu calmé, ça s'était amélioré ou c'est tendu comme ça à chaque année?
C'est toujours tendu. C'est une histoire qu'il faut changer les mentalités. C'est un peu comme attaquer le racisme. Tu feras pas ça en dans un an, tu vas faire ça sur des générations et des générations et des générations.
OK, mais vous me dites que c'est pas racisme. En même temps, vous dites qu'il y a des tensions basées sur quoi? L'affrontement des cultures, l'incompréhension de l'autre, l'intolérance?
Oui, c'est tout ça. Moi, au niveau de ma génération, j'en ai vécu un peu, mais je mettrai pas tout le monde dans le même bateau parce
non.
que c'est arrivé dans une ville. Puis j'ai des amis, ben c'est la pire phrase à dire, mais il y a du bon monde à Baie-Comeau. Puis c'est avec eux autres que je dois faire affaire. Le président de Baie-Comeau, c'est quelqu'un qui m'a ouvert la porte, qui me dit « David, ça fait trop longtemps que ça traîne, faut trouver des solutions. » Tant mieux, c'est là-dessus qu'on veut s'en aller. On veut aller vers le positif de cet événement. On veut que ce soit un événement déclencheur pour la région de la Côte-Nord. Puis tant mieux si ça continue dans la province au complet.
Merci, Monsieur Jean-Pierre. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. David Jean-Pierre est président de l'Association de hockey mineur de la communauté de Ouachat-Mac-Mani-Oténam. Maintenant, avec nous, Stéphane Auger, ex-arbitre de la Ligue nationale de hockey, qui est maintenant directeur exécutif de Hockey Québec. Monsieur Auger, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce qui est arrivé? D'abord, est-ce que le but était bon?
Bien, tu sais, rapidement, c'est deux. J'ai séparé un peu l'incident en deux là, pour que les gens comprennent bien. Hockey Côte-Nord nous a demandé de notre assistance là, par rapport aux incidents du match. Oui, j'ai regardé la situation, puis oui, c'est un sifflet rapide. Faut que les gens comprennent que aussitôt qu'un arbitre ne voit plus la rondelle, il se doit siffler. Puis c'est ce qui est arrivé. Est-ce qu'il aurait dû siffler une deuxième fois? Ça reste que c'est un calibre de M15B. Là, monsieur Jean-Pierre faisait des farces par rapport à un arbitre de la Ligue nationale. Là, c'est certain que c'est des arbitres qui sont peut-être de moins d'expérience ou des adultes qui font ces matchs-là. À partir de là, il a suivi la règle, puis le jeu, le but compte quelques secondes plus tard. Là. Que, c'est couvert par les règles de jeu, c'est une erreur humaine, puis bon, ça va arriver, il y a 100 000 matchs de hockey qui se jouent au Québec par année au niveau amateur. Là. Puis je reçois des courriels à chaque jour sur des gens qui veulent interpréter les règles d'une façon ou d'une autre. Là. Les gens sont assez passionnés de hockey. Fait que c'est un sifflet rapide, mais ça arrive dans les matchs de hockey, ça m'est arrivé dans la Ligue nationale. Là. Fait que tu sais, à partir de là, est-ce que ça justifie qu'un match dégénère? Ça, c'est autre chose.
L'histoire du joueur immobilisé par un arbitre, on voit que ça a été mal vu, mal apprécié par l'autre équipe. Vous, c'est quoi la position? On devait le faire, puis la force n'était pas excessive.
Bien, rapidement, tu sais, c'était des faits allégués. Premièrement, quand j'ai lu ça, je voulais juste m'assurer du comportement des officiels, parce que, tu sais, ça reste que, oui, on parle souvent que les officiels, on a beaucoup d'abus envers les officiels, mais il faut qu'ils se comportent de façon exemplaire. Puis, bon, quand quarantaine de jeunes qui se battent sur la patinoire, puis c'était pas très joli, là. Il y a une altercation avec plusieurs joueurs, puis il y a deux, trois arbitres qui sont dans ce tas-là. Puis il y a un jeune joueur qui est sur la patinoire là, de Bécomo, là, qui, selon ce qu'on a eu comme rapport, qui a fini à l'hôpital avec des marques dans le cou, avec une bosse sur la tête, des pertes de conscience, pour une commotion diagnostiquée. Fait que c'est certain que quand l'arbitre est arrivé là, il a fallu qu'il l'enlève parce que ça, c'était pas joli. Puis bon, après ça, il a trébuché sur le joueur, puis il s'est ramassé par-dessus le joueur, mais assez pour se casser par après. Là. Fait que tu sais, Ça s'est fait rapidement. Ils l'ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais tu sais, il n'y a pas eu de force excessive envers un jeune de 14 ans. Là. Puis ça, c'est ce qu'on voulait voir un adulte sur un jeune de 14 ans. Puis quand on a eu la vidéo hier qui était plus claire, on s'est aperçu qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Là. Puis il n'y a pas eu de force excessive. Ils sont assurés de la sécurité du jeune qui était couché par terre puis qui mangeait, excusez l'expression, mais qui mangeait une volée. Là.
L'autre question qui est plus fondamentale, M. Jean-Pierre parlait de relations tendues entre sa communauté et les gens de Bécomo. On comprend que les rivalités, ça existe, puis c'est bien, là. Mais est-ce que il y a un historique à ce point où ça, à chaque année, c'est une source de tension puis de dérape potentielle?
Ben, je vais bien honnête. Oui, ça aussi, ça, ces événements-là, ça peut arriver dans n'importe quel match de hockey au Québec, là. Puis, malheureusement, on veut pas que ça arrive. Deuxièmement, tu sais, je vis pas sur la Côte-Nord. Je n'entends parler comme vous. Ce que j'ai suggéré, puisque j'ai appelé le chef McKenzie hier, puis j'ai parlé à M. David aussi, moi, je suggère d'aller servir de médiateur pour assainir les relations si on est assaini. Là. Fait que je connais pas toute l'historique, puis je vais être très honnête. Mais tu sais, on a offert notre aide à Hockey Québec si jamais il y a des rapprochements à être faits, là. Mais pour ce qui est du reste, c'est pas mal plus aux gens de la Côte-Nord puis de la communauté à vous répondre à ce niveau-là.
Merci, M. Auger.
Plaisir.
Au revoir. Stéphane Auger, ex-arbitre de la Ligue nationale, qui est maintenant directeur exécutif de Hockey Québec. Et là, je vois les courriels entrer quand on parle du hockey mineur. Puis c'est vrai que, bon, ça s'est passé à Bécomo, mais ça aurait pu être n'importe où. Puis on a vu des dérapes là, dans le passé concernant le hockey mineur. Mais je rappelle que c'est du hockey mineur. Je rappelle que c'est quand même pour jouer. Puis des erreurs commises par des arbitres, il va y en avoir. Parce que ce sont des arbitres qui apprennent, comme les joueurs apprennent. Puis c'est vrai que ça peut être frustrant une défaite, là, surtout à un match crucial. Mais ça fait partie de la vie. T'sais, et puis là, on demande à des jeunes d'accepter ça puis de grandir. Monsieur Jean-Pierre l'a dit, là. C'est une épreuve. T'sais, tu penses que tu as été volé. Puis c'est pas de la mauvaise foi. Quand j'écoute Monsieur Auger, puis la conclusion, c'est on peut-tu ramener le hockey à ce que c'est? C'est-à-dire avoir du plaisir, puis continuer à s'amuser, puis pas que ça devienne à chaque saison une espèce de source de tension potentielle entre les communautés.
C'est 23.